Ici, Moscou. La pensée à travers les faits. Avec Françoise Compoint.
Vaudeville mafieux à la sauce Hollande. Voici un sujet manifestement croustillant pour les amateurs du genre grivois, avec en arrière-plan l'ombre druonesque d'un intrigant avide de pouvoir. Certaines références riches d'archétypes ayant tendance à se perpétrer au gré des siècles, il est en effet à se demander si les rois maudits ne sont pas de retour, à la seule différence que les protagonistes d'aujourd'hui sont loin d'avoir la carrure de leurs prédécesseurs des années-lumière les en séparant. L'histoire est aussi simple sur le plan de la forme qu'elle est compliquée sur le fond. Voici donc pour la forme. Lassée d'avoir à subir Madame Trier-Veller, une concubine manifestement possessive et encline à la névrose, le président de tous les Français, M. Hollande, a eu un réflexe tout à fait normal pour un homme de son rang. Il a décidé de se détendre aux côtés de la charmante Julie Gayet, histoire de s'égayer, c'est moi le calembour, comme il se doit, pour revitaliser une normalité un brin éprouvée par le quotidien, toujours un brin rabat-joie de l'Élysée. L'appartement abritant les ébats sybaritiques de M. Hollande avait été généreusement prêté à Mme Gayet par sa copine, une certaine Emmanuelle Hoc, elle aussi actrice, en tout cas de nom. Or, les effets de cette solidarité, hélas si rare entre femmes, n'auraient jamais quitté la rue du cirque, comme quoi le hasard a le sens de l'humour, si ce n'était un détail assez gênant. L'ex-époux de Madame Hoc, dont elle a deux enfants, Michel Ferracci, est soupçonné d'avoir des liens suffisamment étroits avec le grand banditisme corse, plus particulièrement avec le gang de la Brise de Mer. On sait également que François Massini, membre de cette bande mafieuse de son vivant, enfin jusqu'à ce qu'il finisse assassiné en mai 2013 suite à un guet-apens policier, eh bien que ce fameux monsieur Massini partageait lui aussi le lit de Madame Hoc. Bon, alors c'est à croire un quiproquo cocasse sur lequel un président ne peut plus normal passerait pour un énième mafieux installé rue du Cirque. Une aubaine pour Yves Robert, le réalisateur du Grand Blond, avec une chaussure noire s'il était encore de ce monde. Une nouvelle indigeste pour le papa de Madame Gayet, Bruce Gayet, qui dirige le service des pathologies digestives de l'Institut mutualiste parisien Montsouris. Enfin, une importante secousse pour le milliardaire François Pinault, passionné d'art et collectionneur, dont Julie est l'associée et qui doit voir dans cette dangereuse liaison une peinture d'assez mauvais goût, inspirée du célèbre roman de Coderlos Delaclos. Bref, Hollande s'est retrouvé dans de très très beaux draps, avec une histoire qui n'a presque rien envie à l'épisode de Monsieur Strauss-Kahn avec Madame Diallo à l'hôtel, si ce n'était que le statut de violeur, enfin statut du moins officiel, est comme moins noble, convenons-en, que celui d'apprenti mafieux ou du moins d'apprenti victime de mafieux. L'intrigue mise en lumière, c'est en toute bonne foi que l'on peut attaquer le fond. Primo, on peut se poser quelques questions sur le degré de conscience d'un président réputé normal qui, non content d'avoir révolutionné le statut de première dame de France en le réduisant à celui de première concubine, n'a pas hésité à s'enliser dans une espèce d'imbroglio rocambolesque digne d'un Pierre Richard. On pourrait éventuellement être bon public, peut-être même applaudir, pourquoi pas, si bien sûr il ne s'agissait pas de M. François Hollande, président de tous les Français. On pourrait également plaindre Mme Trier-Veller, qui, le cœur brisé, en sang, s'est retrouvé à l'hôpital une boîte de calmants puissants sur sa table de chevet. Mieux encore, on pourrait louer M. Hollande pour son implacable franchise, son courageuse franchise, lui qui a démoralisé la pauvre Valérie en lui avouant sa liaison. Un homme coupable d'adultère qui se repent, que peut-il y avoir de plus touchant, voyons, même si, voyez-vous, l'intéressé a piqué une crise de nerfs lourde de conséquences en retour. Secondo, et c'est précisément là que le bât blesse, que le nœud de l'intrigue se resserre un max, comment se fait-il que M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, n'a pas demandé au service de police qu'il obéisse, ne serait-ce qu'un minimum d'informations sur ce fameux appartement de la rue du Cirque, procédure archi-élémentaire dont on aurait pu charger n'importe quel policier des tréfonds provinciaux. Était-ce trop demandé, sachant qu'il en va de la sécurité du président? Quelle que soit la réponse, et à ce stade il vaut mieux laisser ouverte la question, elle ne peut que nuire à l'image de marque de M. Valls, un peu dans l'esprit du vieil adage sur lequel tel est pris qui croyait prendre. Les rois maudits, si patiemment et brillamment décrits par Maurice Druon, subissaient, de génération en génération, les terribles imprécations de Jacques de Molay. On se demande si le général de Gaulle ne l'a pas rajouté, vu le ternissement progressif des dirigeants français depuis 1969, à tel point que les cocasseries inimaginables de la rue du Cirque sont sérieusement traitées par les plus éminents journalistes du mainstream français, qui semblent se faire un sang d'encre pour un président plutôt normal, quoiqu'un tantinet volage. Quant à Manuel Valls, sans doute était-il davantage préoccupé par le nombre de voitures cramées la nuit du Nouvel An, réalité qui avait été très relativement éclairée par les médias, à peine éclairée, cramée par des jeunes à la libido dénaturée, et oui, Freud a réponse à tout, au point de laisser le président dans l'ignorance totale de ce que pourrait lui coûter son adultère. Voici une hypothèse hautement naïve, certes, mais que nous préférons privilégier en guise de conclusion provisoire pour ne pas enfoncer le clou. C'était Françoise Compoint pour La Voix de la Russie. Très bonne soirée à vous tous, au revoir.